Le Danois Carl Nielsen et sa cinquième symphonie, son opus 50, servi ici par l'orchestre de la Suisse romande et Tommy B. Anderson, en concert le 15 novembre 2000 au Victoria Hall de Genève. Toutes les bonnes choses, c'est bien connu, ont une fin. C'est déjà l'heure du dernier live de cette tournée romande. Suggestion toujours et encore de Martin Gers et de Yann Nering à partir des archives de la production musicale d'Espace 2. Christian Zacharias, son concert le 9 janvier 2013 au Théâtre de Vevey, sous la bannière de la série Arts et Lettres, interprète de la 10e sonate en ré majeur de Beethoven, une œuvre de jeunesse, puisqu'elle a été composée en 1798, à l'âge de 28 ans, dédiée à la baronne Josepha von Braun, une œuvre pleine de grâce, notamment dans le scherzo final aux notes virevoltantes.
Thank you.
La dixième sonate en sol majeur de Beethoven, telle qu'interprétée par Christian Zacharias le 9 janvier 2013 au Théâtre de Vevey, où il était l'invité de la série Arts et Lettres. On fait tourner un disque pour joindre 16 heures et les informations, extraites du quintet pour flûte, violon, deux altos et violoncelle en ut majeur, l'opus 68 d'Adolf Busch, grand violoniste allemand de la première moitié du XXe siècle, célèbre notamment pour ses merveilleuses interprétations de la musique de Beethoven, pour sa résistance aussi, très courageuse également à l'ogre nazi.
Thank you.
Extrait du quintet pour flûte, violon, deux altos et violoncelle en ut majeur, opus 68 d'Adolphe Busch, dans une lecture au disque chez CPO de Dimitri Vecchi et du quatuor Zarastro. Vous écoutez RTS Espace 2, il est 15h30.
L'oreille d'abord, Catherine Buzer.
Et Jonathan Hasselbacher à la technique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Que diriez-vous de vous rendre en pèlerinage à Rome ? Je vous propose pour cela d'emprunter la Via Francigena, un itinéraire historique qui autrefois a été suivi par des pèlerins venus des régions les plus lointaines de l'Empire, des îles britanniques et du royaume des Francs, pour se rendre dans la ville éternelle. Ces voyageurs d'un autre temps passaient les Alpes, traversaient le col du Grand Saint-Bernard et entraient en Italie par le Val d'Ost et rejoignaient des villes chargées d'histoire et de culture. Une association internationale, Via Francigena, a vu le jour en 1997 à Martigny, avec pour but de faire revivre cette voie historique reliant Canterbury à Rome, alors qu'elle était jusqu'alors totalement méconnue. En 2001, une association européenne des chemins de la Via Francigena a été créée à Fidense. Grâce à leur dynamisme, la Via Francigena a été élevée en 2004 au rang de grand itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Cette année 2021 marque donc le 20e anniversaire de l'Association européenne de la Via Francigena, qui organise pour l'occasion un grand événement baptisé Road to Rome 21, qui va débuter cet été à Canterbury pour se terminer à l'automne à Santa Maria delle Oca. Voilà une belle occasion de sortir nos chaussures de randonnée et de nous élancer en musique sur les traces de ces pèlerins d'un autre temps. l'entrée des chevaliers précédée du prologue, deux extraits des Pèlerins de Canterbury, une vaste cantate pour soli, chœur et orchestre du compositeur britannique George Dyson, qui signe ici son plus grand succès avec une musique vibrante et originale. Richard Hickocht était à la tête du chœur et de l'orchestre symphonique de Londres. Canterbury, c'est justement le point de départ de la Via Francigena. Située dans l'extrémité sud-est de l'Angleterre, à quelques 90 km de Londres, elle compte parmi les villes les plus anciennes du pays et est rapidement devenue le siège de l'archevêque d'Angleterre. Elle abrite dans ses murs une formidable cathédrale, érigée entre le XIe et le XIIe siècle, et qui est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son histoire est intimement liée à celle de l'Angleterre. Au Moyen-Âge, on y venait en pèlerinage de toute l'Europe pour y chercher la guérison. Cette cathédrale est au cœur de la cantate de George Dyson. Cette œuvre pour trois soli, chœur et orchestre a connu son heure de gloire en Angleterre. Elle a été créée avec un succès sans précédent en mars 1931 à Winchester. L'œuvre repose sur un poème de Chaucer, écrivain anglais du XIVe siècle, qui peint une fresque haute en couleurs, montrant la vie et les usages de l'Angleterre des environs de 1380. En son temps, les pèlerinages étaient devenus une forme de tourisme. Dyson se limite au prologue du poème et décrit la réunion des pèlerins à l'auberge du Tabard dans le quartier de Southwark, à Londres. Le chœur déclame les premiers vers de Chaucer. C'est le mois d'avril et l'arrivée du printemps donne aux gens l'idée de partir en pèlerinage. Puis il nous rappelle que Canterbury est un haut lieu de guérison.
Thank you.
Les pèlerins de Canterbury, cantate pour soli, chœur et orchestre du compositeur britannique George Dyson. Richard Hickox dirigeait le chœur et l'orchestre symphonique de Londres. Répondons donc à l'appel de Chaucer, l'auteur du poème de cette cantate, et lançons-nous en pèlerinage sur le chemin de la Via Francigena, ou en français la Voie Francigène. À l'instar du chemin de Compostelle, c'est une des voies de pèlerinage des plus importantes de l'époque médiévale, avec le pèlerinage de Jérusalem et celui de Compostelle. Les pèlerins de Rome étaient appelés les Romieux ou Roumieux, terme qui est ainsi à l'origine du prénom Roméo. L'expression « tous les chemins mènent à Rome » suggère qu'il n'y a pas d'itinéraire unique pour se rendre au tombeau de Saint-Pierre dans la basilique du Vatican. Un des itinéraires principaux s'appuie donc sur le tracé du voyage entrepris par l'archevêque de Canterbury, Sigéric de Canterbury, primat de l'Église d'Angleterre, qui s'est rendu à Rome en 990 pour y rencontrer le pape. Sigéric décrit précisément les 79 étapes de son itinéraire dans un texte qui nous est parvenu. Ce document est conservé à la bibliothèque de Londres. Le parcours de Sigéric commence à Canterbury et franchit près de 2000 km. Les étapes du manuscrit servent de base à l'itinéraire actuel de la Via Francigena. C'est donc ce tracé que je vous propose de suivre aujourd'hui. En quittant Canterbury, Sigéric s'est rendu à Douvres en passant par Shepherd's Wall. Il franchit le canal de la Manche, puis entre en France par Calais. Retournez-vous et prenez le temps de contempler les falaises de Douvres et imaginez l'impression que devait exercer la vue de l'île qui s'éloigne sur le pèlerin qui affrontait un voyage plein d'incertitudes. Vous ne reverrez la mer qu'après 3 mois de marche, et ce sera la Méditerranée. La mer est calme ce soir, la marée est haute, la lune est juste sur les détroits. Sur la côte française, la lumière brille. Les falaises d'Angleterre se dressent, scintillantes et vastes, dans la baie tranquille. Viens à la fenêtre, l'air de la nuit est doux. C'était les plages de Douvres, mélodie pour baryton et quatuor à cordes de Samuel Barber, l'opus 3 de ce compositeur, qui s'inspire ici d'un poème de l'écrivain anglais Matthew Arnold. Dans ce poème, on évoque les plages de Galles, la mer qui coule sur les pierres comme un rugissement grinçant. Thomas Hampson était accompagné par le quatuor Emerson. La Manche traversée, la zone de Calais ne sera bientôt qu'un souvenir. Emprunté d'un pas agile, le parcours balisé du GR 145. C'est ce chemin de grande randonnée que la Fédération française de randonnée a identifié comme le parcours officiel de la Via Francigena en territoire français. Vous allez très vite vous retrouver dans la campagne tranquille des Hauts-de-France. Dans la région du Grand Est, le premier but important du pèlerin est l'arrivée à Reims, surnommée la Cité des Sacres ou la Cité des Rois. C'est sur le futur emplacement de la cathédrale Notre-Dame de Reims que Clovis a été baptisé par Saint-Rémy et que furent sacrés un grand nombre de rois pendant plus de 10 siècles, de Louis le Pieux jusqu'à Charles X en 1825. La cathédrale de Reims est emblématique de la ville et mérite largement le coup d'œil. Achevée au XIVe siècle, elle compte parmi les plus belles expressions de l'art gothique en France. Elle a été qualifiée de cathédrale martyre, car en 1914, peu après le début de la guerre, elle a été bombardée par les Allemands. Les premiers obus sont tombés sur la ville de Reims et sur la cathédrale le 4 septembre 1914. Deux abbés hissèrent en urgence le drapeau blanc pour faire cesser le bombardement. Malgré tout, l'édifice a reçu quelques 288 obus dans une ville détruite à 85%. Un vaste chantier de restauration a été entrepris immédiatement après la fin de la guerre. Et je vous propose ici d'écouter le vaste poème symphonique de Gabriel Pierné, intitulé justement « Les cathédrales ». Il s'agit de la musique de scène que le compositeur a écrite à la demande du dramaturge Eugène Morand pour la mise en scène de son poème éponyme. L'œuvre met en scène la Grande Guerre. Les cathédrales françaises sont personnifiées et racontent les préjudices qu'elles ont subis et les souffrances de la population.